Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, confortablement installé chez vous, à écouter soit Hervé, soit Catherine, vous lire des extraits de romans ou des nouvelles. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est Hervé qui va nous lire quelque chose.
Certes.
Donc Hervé, dis-nous ce que tu as choisi de nous lire aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'ai choisi un livre, déjà assez vieux d'ailleurs, hein, puisqu'il est paru aux éditions du Seuil en 2006, et qui s'appelle « L'amour humain » de Andrei Makin. Andrei Makin, c'est un auteur qui est franco-russe, ou plutôt russo-français, je devrais dire, puisqu'il est né à Krasnoïarsk, ça, dis donc, ça fait rêver, en Sibérie. Puis il a rejoint la France, d'abord clandestinement d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas si Krasnoïarsk peut faire rêver.
En tous les cas.
Moi, moyennement, ça me fait moyennement rêver. Mais ça veut donc dire que Andrei Makin était un migrant.
Certes, on peut le dire comme ça, oui. C'était en 87, mais enfin, il y avait déjà des migrants à l'époque, donc il faut croire. Je précise également qu'il est élu maintenant à l'Académie française, depuis 2016.
Et donc, pourquoi le choix de Makin?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Non, allez, on va arrêter de jouer les chochottes. C'est toi, Dominique, qui m'a conseillé cet excellent bouquin. Les auditeurs, s'il y en a, sont habitués à nous entendre, Catherine et moi, lire des livres que nous avons choisis par le plus grand des hasards, selon nos envies. Mais, disons-le, la liste de nos envies peut parfois se raccourcir drastiquement. Et c'est ce qui m'est arrivé récemment, puisque je n'arrivais pas dans toutes mes lectures à trouver un livre intéressant pour être lu lors de cette émission. Parce qu'il faut toujours des livres qui soient très concrets pour être choisis dans une émission. Fort heureusement, pour préparer Bouillon de lecture, on est trois.
Eh oui.
Eh oui. Et c'est toi, Dominique, la semaine dernière, qui m'a sauvé la mise avec cet excellent titre « L'amour humain ».
Alors, il faut dire, je ne veux pas dévoiler les choses ni essayer d'influencer le goût de nos auditeurs, mais c'est vrai que j'ai adoré ce livre et que je l'ai lu deux fois de suite. Ce qui m'arrive extrêmement rarement. Enfin, ça ne m'était jamais arrivé de lire deux fois de suite le même livre.
Ça prouve au moins une chose, c'est que tu sais lire.
C'est, ou peut-être que je n'ai pas bien compris la première lecture, peut-être.
L'amour humain, c'est un livre multiple. On pourrait d'abord le considérer comme un thriller, car son décor change tout le temps. De l'Angola à Cuba, la Russie et même la Sibérie, donc Krasnoïarsk, en passant par l'Afrique, le Zaïre, pour terminer en Somalie. C'est un livre violent. Depuis la nuit des temps, les hommes s'affrontent pour la possession des femmes, de l'argent, du pouvoir. Ils violent, ils tuent, sans trop de remords parfois, guidés par cet élan collectif qui les pousse à s'élever au sommet d'une folie meurtrière n'ayant de limite que la soif insatiable de violence.
Alors certes, il y a de la violence, mais il n'y a pas que ça. Le livre s'appelle quand même « L'amour humain ».
Il n'y a pas que ça, car c'est un livre qui fait réfléchir, qui cherche à donner un sens, s'il en est un, à ces batailles qui ont rendu les hommes méconnaissables. En posant un regard cynique sur la vie et les individus qui peuplent le monde, Makin nous raconte les peurs qui nous hantent et la conscience de la mort. Et enfin, avant que tu me recoupes la parole, c'est un roman d'amour. Le héros, Elias Almeida, rencontre Anna, jeune sibérienne étudiante à Moscou. C'est en sorte grâce à elle qu'Elias va prendre conscience de l'iniquité des guerres. Ça, c'est un terme savant, hein, l'iniquité des guerres, des révolutions. Elle sera sa conscience jusqu'à sa mort. Oui, on peut dévoiler la fin du livre, puisque le narrateur donc parle déjà d'Elias tout le temps dans son livre au passé, et ce dès le début du roman. Donc on devine la fin du roman, on sait que Elias va mourir. Andrei Makin écrit formidablement les quelques scènes de cet amour impossible. Mais puisqu'on parle d'Elias, eh bien commençons par le présenter, ou plutôt laissons donc le narrateur le présenter lui-même. Je précise que ce livre est écrit par le pronom personnel avec le pronom personnel « je », le « je » du narrateur. Le narrateur s'appelle « je ». Je n'ai jamais écrit sur la vie d'Elias Almeida. J'ai noté ce fragment il y a 2 jours dans l'avion en pensant le citer au colloque « Les destins africains ». Chaque écrivain invité devait lire un bref témoignage personnel. J'ai vite compris à quel point je m'étais trompé dans le choix du texte, pour ainsi dire. Depuis 15 ans, je n'étais pas retourné en Afrique. À présent, dans le cocktail qui rassemble les participants, j'essaie de comprendre en quoi ont changé les modes de pensée, les comportements, de comprendre surtout ce qui rend ces quelques notes sur Elias parfaitement anachroniques pour ces gens qui boivent, se sourient, s'embrassent, rient, échangent leurs cartes de visite. Je distingue un écrivain africain qui est intervenu cet après-midi. D'une voix de pitié, il a exalté la magie ancestrale, inaccessible au cerveau européen. Les traditions et les rites sans lesquels l'Afrique ne serait plus l'Afrique. Les arbres à palabres, le sens du sacré. Il parle maintenant avec un confrère qui, à la même table ronde, a pourfendu les nostalgiques, les fossoyeurs. Ceux, en somme, qui ne pensaient pas, comme lui, que l'Afrique surfait sur toutes les nouvelles vagues, swingait au rythme de la modernité et même greffait ses couilles de nègre à la culture asthénique de l'Europe. Je vois aussi ce romancier français, osseux et malingre, qui se dit aventurier de l'Afrique profonde après avoir fait 2 voyages au Sénégal. Il est en train de se pâmer devant un groupe de chanteurs traditionnels dont les boubous multicaleurs sentent le textile neuf. À côté d'eux, un cercle frétillant de rappeurs qui vont se produire ce soir. Des petites gueules satisfaites de gigolos, des grimaces d'enfants gâtés, du politiquement correct, un accoutrement qui revendique sa laideur de contre-culture domestiquée et puant le fric. Enfin, en face d'une 20aine de dessins accrochés au mur, le couple que je reconnais, cette grosse femme blanche aux cheveux couleur betterave, l'une des organisatrices du colloque, et son amant, un dessinateur quinois. Il donne une interview au journaliste en pointant le doigt sur ses dessins. Elle l'observe un peu comme s'il était sa créature. Non, aucun changement véritable. Tout simplement, en 15 ans d'oubli, je me suis persuadé de pouvoir raconter un jour la vie d'Elias Almeida. Le temps qui passe fait de nous des doux rêveurs. Quelques bribes subsisteront de lui, certes, dans la tête des gens qui l'ont connu et qui diront « Un Angolais engagé pour une cause depuis longtemps perdue ». Un homme courageux, absurdement courageux même, sans doute aimé des femmes, mais gardant un attachement inexplicable pour l'une d'elles avec qui il a vécu une histoire très inaccomplie, une histoire d'amour ratée, en somme. Oui, ceux qui l'ont le plus approché pourront au mieux raconter cela. Quant aux autres, je regarde la salle. Elias Almeida n'existera jamais pour eux. Ils ne voudront jamais que leur fête soit perturbée par le souvenir de destins comme le sien. Les amplis commencent à lancer les premières secousses de batterie. Les cordes poussent des miaulements mats. Les nuques grasses se dirigent vers le restaurant. La fête peut commencer. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai le sentiment très physique de l'effacement d'une vie. Quelques années suffisent pour transformer un être vivant en ce fantôme qui hante de moins en moins les mémoires. Un jeune nègre qui a naïvement lutté pour un monde meilleur, a aimé sans succès, disparu sans bruit. J'essaie fébrilement de me rappeler les détails de cette existence effacée. Mon souvenir s'accroche à une parole, à un geste. Mais une vision très récente empiète sur ses reflets d'antan. Le mois dernier, ce bout d'émission télévision, une discussion sur l'avenir de l'Europe et la voix d'une dame très sûre d'elle, presque méprisante. Vous vivez encore avec les chimères de la France, du plein emploi. La mondialisation est passée par là, ne l'oubliez pas. Et si les Français ne se remettent pas au travail, ce sont les pays émergents qui leur apprendront le libéralisme. Me revient aussi un article sur le scandale des ventes d'armes à l'Angola et le bourbier pétrolier où pataugeait une grande compagnie française. Un des hommes impliqués avouait avoir été gêné dans ses activités par un Robespierre angolais qui luttait très efficacement contre tous les trafics. L'identité de ce justicier, écrivait-il, m'est restée inconnue jusqu'au bout. Cette affaire s'est depuis recouverte de la poussière des archives. La compagnie en question a changé de nom, les réseaux se sont reconstitués, et seule une poignée de personnes ne pouvait encore deviner que le justicier en question était Elias Almeida. Je garde en mémoire la transcription hâtive de ces récits, le pointillé de quelques rencontres souvent fortuites en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Mais je ne conçois plus aucune logique qui puisse lier ces fragments, sauf l'échec de tout ce qu'il a rêvé, la perte de celle qu'il a aimée. En bas, sur le perron de l'hôtel, la foule des invités s'apprête à aller explorer la vie nocturne de cette capitale africaine. La fête continue. Les nuques grasses s'installent dans les limousines de caricature. La piétaille a droit au minibus poussif. À un certain degré de la clownerie sociale, la bêtise humaine provoque presque de la compassion. De l'autre côté de la frontière, si proche de cette ville, la guerre fait rage, les villages brûlent, les adultes tuent, les enfants, d'autres enfants, deviennent tueurs. Le monde contre lequel luttait Elias Almeida.
Prendo la Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade. Dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Comme d'habitude, j'ai chapitré mes parties. Hein. La deuxième partie, je l'appelle Cuba. Mais c'est un titre de chapitre que j'ai inventé moi-même. Hein. D'accord, hein. Chers amis auditeurs, ne dites pas. Hein. Et pourtant, la deuxième partie, donc, moi, je la fais commencer en Angola. En Angola, donc, le narrateur, jeune écrivain russe, qui deviendra reporter de guerre, est retenu au fond d'une geôle. Il gît à côté d'un corps inerte, en plus mauvais état que lui. On est en 61. La guerre coloniale portugaise vient d'éclater. Je précise que l'Angola était une colonie portugaise depuis le 15e siècle. Alors que ce jeune homme craint pour sa vie, le corps, jusqu'à présent inerte, s'éveille et se met à lui parler russe. Et bien là, chers auditeurs, vous avez reconnu Elias. Tous deux, donc russes en pays ennemi et en plus emprisonnés dans une geôle, vont presque naturellement devenir amis. Tout au moins, Elias va exercer sur Je une fascination proche de l'admiration. Et Elias, par bribes, va se mettre à raconter sa vie. Le premier souvenir remonte 25 ans plus tôt à Cuba. Cuba. Cuba allait lui apprendre l'usage des armes, la science de la révolution, la chair de femme. Et ce soir-là, en 1967, sur une plage cuivrée par le couchant, il apprit la fin d'Ernesto. Cette mort resta ainsi à jamais liée dans son souvenir au saignement vif des nuages, à la somnolence des vagues, au visage éploré de cette jeune cubaine qui lui annonça la nouvelle. Une chevelure raidie par le sel, des lèvres dont il effaça d'un baiser un gémissement un peu trop artistique. Le Che est mort, les Américains l'ont tué. La mort d'Ernesto se mêla à la chaleur lisse de ce premier corps aimé se clouer de sanglots. Elias devinait la coquetterie de ce chagrin. Son amie l'avait rejoint pour faire l'amour. Elle s'y adonnait d'habitude avec une avidité saine et brutale, sans perdre de temps en épanchement. La mort du héros national offrit à leur rencontre une saveur nouvelle, dramatique. Allongé près de la femme qui couvait le plaisir reçu, il pensa, avec la stupeur que provoquent toujours ces idées simples, presque bêtes dans leur vérité, la révolution n'a donc rien changé à tout ça. 3 ans plus tard, lors d'un rassemblement populaire à La Havane, il eut la même pensée sur l'amour et la révolution, une réflexion aussi brute et d'une clarté aussi déroutante. Si la révolution ne change pas notre mode d'aimer, à quoi bon tous ces combats ? Immobile dans la rangée de ses camarades, jeune militaire comme lui, il observait l'immense esplanade envahie par les masses travailleuses, que les orateurs chauffaient avant l'intervention de Castro. Les slogans claquaient dans le vent avec la sonorité sabrante de l'espagnol. Les applaudissements et les cris déferlaient en longs rouleaux écumeux. De sa place derrière la tribune, Elias voyait le dos des orateurs et l'envers de 2 énormes panneaux. La violence du soleil laissait reconnaître par transparence les personnages peints, Marx, Lénine et Castro. Il n'écoutait pas les harangues, mais notait les bizarreries de ce spectacle. Sur la toile des panneaux, les 3 guides de l'humanité se montraient en pied. L'envers de la toile était ponctué de clous qui la fixaient sur le quadrillage de tasseaux de bois. Curieusement, penser qu'un de ces clous était enfoncé dans la poitrine de Castro rendait les paroles à la fois risibles et ambiguës. « Libertad, movimiento, popular !» Dans la foule, les visages souriaient benoîtement comme devant un film, et l'envers des panneaux exhibait les bords effilochés du tissu. Une femme blonde monta à la tribune. L'impression de mise en scène augmenta. Elle parlait avec un fort accent, en gesticulant. Elias éprouva la gêne que provoque l'apparition en public d'un être proche. Il connaissait Louise Rimens depuis plusieurs mois, une Française d'une famille richissime qui avait rompu avec son milieu, avait épousé la Révolution selon sa formule. Au début, Elias y voyait un destin unique et exemplaire, avant de constater que l'agitation juvénile de 68, en France, avait procréé des hordes d'apprentis rebelles qui erraient désormais dans tout le pays et qui pouvaient encore souffler sur les braises et mener une vie capable de choquer leurs parents bourgeois. Tout ce que Louise faisait à Cuba était, consciemment ou non, destiné à des spectateurs imaginaires là-bas, en France. À présent, elle appelait à propager la flamme de la révolte sur d'autres continents. Sa voix se coupait quand elle citait Ernesto Guevara. Son corps était robuste, mais sans grâce. La corpulence d'une fille de bonne famille, une fille qui voulait à tout prix dépenser ses avantages de jeunesse bourgeoise dans des aventures au bout du monde, au milieu des peuples affamés, des soubresauts et des luttes. Tout cela semblait maintenant si clair à Elias. Oui, une petite fille de 25 ans, une enfant gâtée qui était en train de se sculpter un destin. Elle pétrissait la pâte à modeler qui lui était tombée sous la main, ce Cuba en ébullition, cette foule havanaise qui buvait ses paroles, comme celle d'un prophète, des articles enthousiastes qu'elle envoyait à un journal parisien, ce Che, idole immortelle car morte bien à temps. Du théâtre, se dit-il. Et il se rappela les sanglots de cette jeune cubaine qui, 3 ans auparavant, lui avait annoncé la mort d'Ernesto. Oui, toujours le même théâtre. Sauf qu'à présent, j'ai là-dedans le rôle enviable du jeune premier. La voix de Castro interrompit cette cascade d'aigreur dans sa pensée. L'orateur parlait avec une sincérité un peu douloureuse, avec une conviction véhémente et en même temps mélancolique. La conviction de celui qui ne croit plus, mais qui voudrait à tout prix être cru, se dirait Elias des années plus tard. Lui, il voulait à tout prix garder sa foi, cet espoir ancien, encore enfantin, de voir un monde où il serait impossible de laisser mourir une femme à la clavicule brisée ou d'abattre un homme, presque par distraction, entre 2 bouffées de cigarette. À la fin du discours, il sentit dans son dos un léger gratouillis. Un chuchotement frôla son oreille. « Je t'attends chez moi. Essaye de te libérer. » Louise avait réussi à se faufiler à travers les rangs des soldats. Sans la voir, Elias perçut l'excitation joyeuse de cette grande enfant éprise de jeux clandestins et de rendez-vous secrets. Il consulta sa montre. Castro parlait depuis plus de 2 heures et nota qu'à aucun moment le tribun qui exaltait la société future n'avait évoqué l'amour entre 2 êtres humains. Le soir, chez Louise, il retrouva la comédie de la conspiration dont désormais il détectait si bien la fausseté. Un combattant menacé, lui, rejoint sa passionnaria, elle, au milieu d'un pays hostile dans une ville inconnue. Elle se donnait, plongée tout entière dans son rôle de révolutionnaire traqué, jouissait plus intensément grâce à ce jeu et osait plus. C'est la comédienne qui l'entraîna sur le plancher de la pièce, se laissa écarteler à même le sol, au milieu des mégots et des brouillons éparpillés de ses articles. C'est la rebelle imaginaire qui lui griffait le ventre, poussait des gémissements en se mordant les lèvres, s'abattait sur le dos dans une posture de crucifié, feignant tantôt l'abaissement d'une amour soumise, tantôt l'opiniâtreté mécanique d'une femelle lente à satisfaire. Dans le regard chaviré de la femme, il voyait le reflet de sa virilité, l'éclat noir de sa peau en sueur. La marque de son nouveau statut, lui, le nègre, était en train de saillir une journaliste connue, une blanche, une femme qui fréquentait les dirigeants cubains et Castro lui-même. Ce soir-là, les masques lui parurent faux et vains, mais surtout, il comprit que dès le début, tout était faux et vain.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signales, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons sifflera bien mieux le merle à mon cœur.
Après quelques péripéties errantes d'un souvenir à l'autre, on arrive à Moscou. Alors, on ne racontera pas comment le jeune Elias congolais de race noire se retrouve à Moscou pour y apprendre le métier de révolutionnaire. Après tout, n'est-ce pas, c'est un métier comme un autre. Amis auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez toujours rêvé de devenir plombier ou boulanger? Eh bien, cessez ces pensées mesquines et rikiki. Devenez révolutionnaire. C'est bien plus original et plus efficace pour draguer la meuf. Je vous le dis. Par contre, il me semble que l'espérance de vie semble être un petit peu plus réduite. Et puis, comme tous les métiers, celui-ci s'apprend donc dans une école de révolutionnaires. Mais je reconnais que ce n'est pas si facile que ça à trouver. Il n'y en a pas à Blois, n'est-ce pas, Dominique? Il n'y a pas d'école de révolutionnaires.
À ma connaissance, non.
Non, au lycée Camille Claudel, non, ils font art plastique, mais ils ne font pas...
Il y a un bac révolution, mais en préparation.
Bref, pour obtenir le CAP de révolutionnaire dans les années 60, l'idéal était de se rendre en URSS. Ce qui voulait dire, Dominique, Union des républiques socialistes et soviétiques, c'est gentil de suivre.
On a oublié, non? Ça se disait CCCP en russe.
Exactement, oui, en russe, bien sûr. Oui. Et pour ceux qui ne savent pas ça, au fait, nos jeunes auditeurs, eh bien, ici, ce n'est pas un cours d'histoire, vous êtes priés de retourner à l'école. Bref, revenons-en à Elias. Celui-ci se retrouve donc à Moscou, à l'école des révolutionnaires. Comme dans toutes les universités, il y a des cours théoriques et des travaux pratiques. Et on retrouve Elias dans l'un de ses cours. Moscou. Le plus dur fut, comme toujours, de se résoudre à tuer les enfants. Les rejetons d'un tyran, certes, la future élite d'un régime d'oppression. Mais la porte de leur chambre défoncée, Elias se détourna malgré lui pour éviter le regard de ce garçonnet qui tentait de se cacher derrière un rideau, de cette fillette qui serrait une grande poupée moussant de dentelle. L'aéroport avait été pris une heure auparavant, juste après l'écrasement de la garde gouvernementale et l'occupation du dépôt d'armes. Des commandos tenaient la gare de chemin de fer, les axes routiers, les principales banques. Une résistance inattendue autour du bâtiment de la radio freina l'offensive. Pourtant, le palais présidentiel résonnait déjà de fusillades. La consigne était claire, liquider le chef de l'État ainsi que tous les membres de sa famille, sans exception. Rester en vie, un défi aurait pu devenir le drapeau de la contre-révolution. À la tête de son unité, Elias parvint au premier étage, franchit le feu nourri des gardes du corps, aida l'artificier à faire sauter la porte des appartements privés. Les combattants mitraillaient tous les recoins, se protégeaient dans les escaliers et les coudes des couloirs, jetaient des grenades d'assaut. Et puis, il y eut cette chambre d'enfant et ce désir de tirer sans tuer, en fermant les yeux ou même d'être tué avant de pouvoir tuer. On l'informa que la police secrète qui défendait le siège de la radio venait d'être délogée. Il fallait sauter dans une jeep, foncer au milieu des rafales et, vite installé devant un micro, lire cette déclaration du gouvernement populaire intérimaire qu'il avait rédigée la veille. « Camarades, la lutte héroïque de l'armée de libération nationale a mis fin à la dictature sanguinaire et corrompue du maréchal X. » Le pouvoir est aux mains du peuple représenté par les forces patriotiques de l'ALN et du Parti socialiste du progrès. Du travail très professionnel. Dès les premiers tirs, le matin, jusqu'à cette lecture dans un studio qui sentait encore l'aigreur de la poudre et la transpiration des hommes essoufflés. Elias lisait d'une voix grave, parfois détachait le regard des lignes dactylographiées. Il connaissait son texte par cœur. Il avait déjà participé à une douzaine de révolutions d'entraînement dans ce camp militaire à proximité de Moscou. Le scénario changeait. Les forces de l'ennemi devenaient mieux armées et autrement regroupées. Les embûches se multipliaient. La population, jouée par des soldats en civil, était tantôt coopérante, tantôt hostile. La ville elle-même, cette ville artificielle qui imitait le plan urbain typique avec sa gare, sa résidence du chef de l'État, l'aéroport et le reste des lieux clés, oui, même ces blocs en préfabriqué étaient remaniés avant la nouvelle révolution. Cela compliquait l'action des insurgés. La gare se transformait en caserne, le siège de la police secrète en ambassade des États-Unis. Les abords de l'aéroport se trouvaient protégés des champs de mines. Dans le palais présidentiel, l'affectation des pièces ne restait pas non plus constante. On reconnaissait le bureau du tyran grâce à une grande reproduction encadrée de « La bataille de Borodino ». Et au seuil de la chambre d'enfant, on mettait cette grosse poupée en plastique couverte de tulle salie et à qui il manquait un bras. « Une révolution, disaient les instructeurs, n'est pas seulement une affaire de dynamite. Sa préparation est longue et minutieuse. Il faut d'abord travailler en profondeur les masses populaires, créer des réseaux de combattants et ceux plus flous mais indispensables au succès de l'insurrection, des compagnons de route et des sympathisants. On ne peut pas lancer l'assaut contre une dictature sans avoir infiltré l'armée et la police, gagner l'approbation ou au moins la neutralité des intellectuels et des médias, sonder le terrain diplomatique. Mais en définitive, cela reste une question de flair. Un peuple prêt à vous soutenir, un régime prêt à s'écrouler, ça se sent. Ça sent quand même la dynamite, pensait Elias, devinant la conviction profonde de ses maîtres en révolution. À la fin de ces séances de technique insurrectionnelle, il arrivait à Elias de se demander « à quoi bon ?» tant les astuces destinées à mater son prochain étaient ingénieuses et sans merci. Dans la bouche des instructeurs, ces tactiques de combat et de subversion devenaient de l'art pour l'art, un brillant but en soi qui éclipsait le but de la révolution elle-même. Ils passeraient toute leur vie, se disait Elias, à fignoler leur méthode, tels des joueurs hypnotisés par la marqueterie de leur échiquier. À quoi bon ? Il se hâtait de faire taire cette question indigne d'un professionnel.
À qui se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara?
Nous connaître, un peuple ne doit se soumettre, mais dans la lueur de ses yeux, il y en a qu'on cru voir le bon Dieu. Chacun porte en lui cette image d'insolence, de beauté, de courage. Sommes-nous révolutionnaires autour d'une table après des verres?
À qui se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara?
Ainsi la vie était claire, d'une incroyable transparence. Très étrange était ton bras, commandant Che Guevara.
Le peuple souffre davantage de liberté, d'autres rivages qui pourraient bien tourner la page sans voir Mickey sur les plages. Et si par bonheur, par malheur, fidèle partait en douceur rejoindre son compagnon d'armes, tout couvent serait dans les larmes.
Thank you.
Le livre L'amour humain baigne pour l'instant dans la noirceur des sentiments des hommes. On a découvert le pire, l'innommable. On a donc besoin d'apaisement. Et cet apaisement va survenir avec Anna, sorte de bulle de réconfort dans un monde dont les valeurs essentielles semblent s'être effondrées. C'est bien dit quand même, hein, Dominique. J'ai
des belles phrases, des fois.
Mais aussi l'amour des sens et des souvenirs doux qui apparaissent, qui apaisent les mots. Roger.
Qui apparaissent des mots, non ?
Des mots. Eh oui, chers auditeurs, c'est quand même préparé un minimum, on écrit, mais quand on écrit, il faut savoir lire. Bon, bref, au milieu de l'horreur, le visage d'Anna, sans l'amour qui lui portait, la vie n'aurait été qu'une interminable nuit, est-il écrit quelque part dans le bouquin. Toute sa vie, Elias se souviendra d'elle, de son amour inconditionnel, de ce train filant à travers la taïga, on va y aller tout à l'heure, la terre natale d'Anna. Elias découvrira la tendresse, la confiance, mais aussi la peur, celle inhérente à la crainte de la perte de l'autre. Découvrons Anna. Ce jour-là, Elias ne remarqua pas à quel moment la ruelle qu'il suivait se mit à longer des rails enneigés, puis glissa sous le toit délabré d'une sorte de dépôt de train. Il s'arrêta, voulut rebrousser chemin et se rendit compte qu'il était déjà trop tard pour se sauver. « Putain, je t'ai bien dit qu'on avait oublié de fermer les cages du zoo. Voilà déjà un singe. Bientôt, on verra une girafe. » Elias voulut reculer, mais en tournant la tête, il vit dans son dos se dresser un type qui tenait, serré dans ses moufles en cuir, une lamelle de métal chauffée et dont le bout rouge paraissait transparent. Pas de geste de menace, juste du mépris, presque débonnaire. Ce n'était pas une de ces petites bandes de jeunes qu'Elias avait su jusque-là éviter. Des hommes plus âgés, nota-t-il, et qui visiblement étaient eux-mêmes pris au dépourvu par son apparition et voulaient, en riant, dissimuler leur activité. « Bon, vas-y, primate, tu nous laisses ta chapka ? T'en auras pas besoin en Afrique, et tu fous le camp. Mais grouille-toi, le zoo ferme dans une heure. » Une main se tendit vers sa tête. Elias la repoussa et tout de suite un rapide coup porté par une tige de fer lui arracha sa chapka. Il put parer les premiers coups, mais soudain sentit une brûlure vive sous sa nuque, ne sut retenir un cri de douleur, fut jeté à terre, traîné dehors. Une grosse botte l'atteignit à la tête, sa vue se brouilla. Il revint à lui très vite, tenta de se relever, mais on le poussa de nouveau dans une congère. Sa joue était pressée contre la neige et ce froid lui sembla bienfaisant. D'humain, il ramassa une poignée de glace, la serra contre son cou brûlé. Une sorte d'indifférence l'enveloppa. La souffrance physique n'était rien à côté de l'abîme qui venait de s'ouvrir en lui. Même les paroles qui retentirent au-dessus de son corps dans l'obscurité lui parurent au début indifférentes. Et si elles finirent par l'intriguer, c'est parce qu'il ne comprenait presque rien. Pourtant, c'était du russe. Non pas ce russe ordurier que la rue parlait couramment à Moscou et dont il connaissait à présent la rudesse graveleuse. Non, une langue dont il distinguait très bien la cadence, mais dont les mots lui étaient inconnus. Il tourna alors la tête et essaya de voir ceux qui échangeaient ces phrases brèves, sibyllines. À gauche de son visage, il vit des chaussures de femme, d'un modèle lourd et laid, et dont le cuir était tout rabougri, puis des bas de coton râpeux et le pan d'un manteau sombre en gros drap. Il imagina une dame âgée, et la voix correspondait à ses vêtements et à cet âge, une voix sourde, un peu rêche. Il entendit le crissement de la neige sous les pas qui s'éloignait, puis sentit une main qui touchait sa tête, sa joue. « Vous pouvez vous lever, ils sont partis. » Il s'assit, puis en serrant les dents pour ne pas gémir, se redressa. Il resta un long moment sur place, légèrement chancelant, ne s'écroulant pas grâce au regard qui se posait sur lui et le soutenait. À cet instant, il ne pensa pas à la beauté de cette femme, ni à sa jeunesse. Elle murmura « Je m'appelle Anna ». Elias se présenta. Cela ne fit qu'augmenter le sentiment d'irréalité. Ils marchaient tous deux sous de larges brassées de neige, comme au milieu d'une voilure arrachée. Sur sa tête, il avait noué l'écharpe que la jeune femme lui avait prêtée. Il se laissait guider, avec l'espoir dément qu'à la fin, tout ce qui venait de se passer serait miraculeusement préparé, effacé. Des hommes pour qui il n'était qu'un singe, sa chapka jetée dans le feu, leur haine, dans un pays qui promettait un monde sans haine. « Qu'avez-vous dit à ces types du dépôt ?» la questionna-t-il en jouant la décontraction. La voix d'Anna répliqua en écho détendu. « C'est le fait que je parle la langue des taulards qui les a surpris, pas le sens de ce que je disais. D'ailleurs, il leur importait surtout de vous abaisser. La société humaine est pareille en cela au monde animal. Je l'ai étudié dans mes cours d'éthologie. Sauf qu'une bête ne blesse pas un congénère avec la parole. Voilà, on est arrivé. Votre foyer est par là et moi, je vais prendre le métro. » Elle disparut dans la tourmente blanche. Elias fit quelques pas puis courut pour lui prendre son écharpe et à l'entrée du métro s'arrêta, piétina au milieu de la neige tassée. Il passa plusieurs jours à la chercher, à l'université de Moscou, errant dans les couloirs, attendant à la sortie des cours. La vie de cette jeune femme, il le comprenait, mettait en doute le monde futur qu'il avait rêvé. Et pourtant, c'est elle qui donnait à ce rêve sa vérité humaine, simple et tragique. « Non, ce n'est pas sa beauté, » pensait Elias, et il se hâtait d'aller dehors, de tourner vers une allée déserte, sachant que bientôt il entendrait des pas derrière lui ou les reconnaîtrait. Une main attraperait son poignet et il plongerait dans le lacis des rues gagnées par un crépuscule d'hiver. Tant de choses auraient dû lui déplaire chez elle, ses vêtements dignes des paysannes qui, chargées de ballots, se bousculaient dans les gares de Moscou, sa voix âpre, sans aucune vocalise de séduction, la dureté qui transparaissait parfois sous la fragilité de sa jeunesse. Avait-il raison de se cacher, de l'attendre dehors, dans ces allées enneigées et désertes, comme à un rendez-vous d'agent secret, pensait-il en souriant. Elle semblait lui savoir gré de sa discrétion. Il n'ignorait pas ce que signifiait, dans ce pays, le fait de sortir avec un nègre. Parfois, au contraire, elle se montrait indifférente à ce qu'on pouvait penser de leur couple. Comme ce soir-là, comme elle s'arrêta dans une cour où ne parvenait pas le brouhaha de la ville. Des gens entraient dans la cour, la traversaient, montaient chez eux. Certains se retournaient, s'assuraient que cette jeune femme et cet Africain figé sous la neige n'étaient pas un mirage. Elias sentait les doigts d'Anna se serrer sur sa main. La vie qu'on devinait derrière les fenêtres du premier étage lui parut soudain très proche de ce qu'il aurait pu vivre tous les deux. Ce qu'il ressentait était si simple qu'il n'essayait même pas de le nommer. Il lui suffisait d'avancer avec elle sous la neige, de sentir la chaleur de sa main, puis l'absence de cette main, l'odeur glacée de l'air, et de voir dans un bus tardif et presque vide ce rond sombre laissé sur la vitre gelée par le souffle d'Anna. Elle y regardait de temps en temps pour ne pas manquer leur arrêt, et cette trace fragile de sa respiration se recouvrait vite de cristaux de givre. Quand il descendait, il lui semblait que ce bus brinque-ballant emportait une parcelle très importante de leur vie. Il n'avait jamais vécu d'instant pareil en compagnie d'une femme, et d'ailleurs il ne s'était jamais imaginé capable de vivre et de voir avec cette félicité douloureuse, cette acuité d'halluciner. Un être inconnu s'animait en lui. Certains jours, il se rendait à l'université où Anna suivait les cours. Il l'attendait alors derrière la porte de sa salle de cours, parfois pendant des heures, mais sans oser se montrer. Il savait qu'après ses conférences, Anna restait quelques minutes dans l'amphi à bavarder avec une grande fille rousse, son amie, qui avait transformé son prénom en un Gina, pas très convaincant. Cette fois, leur conversation semblait avoir débuté bien avant, car Anna ne faisait que répliquer distraitement à l'argumentation véhémente et teigneuse de Gina. « Non, tu fais ce que tu veux, » disait-elle. « Moi, les nègres, j'ai déjà fait le tour du problème. Il est gentil aujourd'hui, ton Congolais. »« Oui, Angolais, c'est ce que je voulais dire. Mais n'oublie pas, un noir, c'est un orang-outan en rut. Et dès qu'il t'a baisé, bye bye, baby. » Anna parlait très peu. « Tu vois, Gina, bien sûr, c'est un noir et tout ce que tu veux. Mais il me comprend comme personne. » Il eut un rire exagérément dédaigneux de Gina, le craquement d'un briquet et ce constat. « T'es vraiment bête, ma petite Anna. Quoique, vous êtes peut-être faits l'un pour l'autre. Lui vient de descendre de son baobab, toi de sortir de ta tanière d'ours. » Anna, comme si elle ne l'avait pas entendu, poursuivit sur un même ton rêveur. « Et puis, il y a en lui quelque chose d'un... Mais ne ris pas, oui, d'un chevalier. » Deux jours plus tard, il apprit que pendant les vacances, elle irait dans son village, en Sibérie orientale. « Je pourrais peut-être... » Il n'eut pas l'impression de le lui demander. C'était l'écho d'un rêve qui s'exprima presque à son insu. « 7 jours de voyage, il peut faire facilement moins 50 là-bas, » répondit-elle comme si elle avait voulu le dissuader. Ils partirent par un temps de redoux. Moscou sentait le gazon humide. Pendant la deuxième nuit, dans une gare de l'approche de l'Oural, Elias descendit sur le marchepied du wagon et ne parvint pas à respirer. L'air glacé avait la dureté coupante d'un cristal.
La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato. E ho trovato l'invasor.
Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno, diranno che bel fior. E le genti che passeranno,
mi diranno che bel fior.
Genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Eh bien, merci Hervé, merci pour cette lecture. Tu auras noté au passage les musiques qui ont été choisies. As-tu fait attention aux musiques
évidemment.
Que j'ai choisies.
Tout à fait, mais ouais. Ne me questionne pas quand même.
Grandola Villa Morena, vous bien connaissez
sûr,
tous les deux.
Mais bien sûr, on connaît que ça.
Oui, on connaît
je l'écoute tous les matins, moi.
Oui.
Toi aussi.
En me brossant les dents.
Oui, exactement.
Alors, bande d'incultes, je vais vous apprendre qu'il s'agit d'une chanson révolutionnaire qui a été adoptée par les Portugais au moment de la Révolution des œillets.
Les œillets.
Oui.
Voilà. En quelle année?
Eh bien, les années 70. 72, je ne m'avance pas trop, ça m'évitera de dire une
bêtise. T'essayes de le coincer. Hein. Voilà.
Ensuite, c'est pratique la réponse de dire les années 70 comme ça.
Voilà. T'en as 9.
Ensuite, vous avez reconnu le temps des cerises.
Voilà, la version ça va, de c'est noir, plus facile.
Sauf que je te le dis, hein, je préférais la version d'Yves Montand. Hein.
C'est pas la même, c'est un choix. C'est un choix. Alors, le temps des cerises, quel rapport avec la Révolution? Hervé, Catherine?
Eh bien, la Commune.
La Commune de Paris.
Oui. C'est évident.
C'est évident, bien sûr, c'est évident pour tout le monde. Ensuite, vous avez reconnu évidemment la chanson de Vassilou qui reprend l'hommage à Che Guevara. Et la dernière, c'était facile aussi, c'était Bella Ciao, le chant des partisans italiens durant la Seconde Guerre mondiale.
Certes.
Voilà. Bien. Je vois que vous avez une culture musicale aussi.
Ah oui, moi, même les oreilles fermées, j'arrive à reconnaître, en fait. Tout ça, là, je...
Eh bien, merci Hervé, merci Catherine. Bonsoir.
Au revoir.
Et donc, bonsoir aux auditeurs. Au mois prochain.
Au mois prochain.
Pour une nouvelle lecture.
Eh oui.
Just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. I saw it in your eyes. I think I left your back. And now it's always good. That's the truth.